Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute. Tout est bien. Vous m'avez pas du tout donné envie, mais c'est pas grave.
Mais en même temps, on a été honnête sur
les qualités, les défauts.
Au moins, t'es prévenu comme ça, tu sais.
Voilà, exactement.
Tu sais où tu mets.
T'as envie de mettre des pantoufles ou t'as pas envie de mettre des pantoufles?
C'est important, les pantoufles. Et puis, c'est pas désagréable en plus. Enfin, il y a un côté.
Non, mais j'ai continué à jouer à ce truc bizarre de Rise of the Ronin. Mais je crois que j'ai continué.
Moi aussi, en fait. Vraiment, j'ai eu du mal à le quitter alors que c'était vide.
On vous spoil, on est en bande-annonce, on est en train de vous spoiler tout l'épisode de demain. Allez, c'est vendu. La question de la semaine, puisqu'on est en bande-annonce. Ah, je suis curieux, notamment de ce qu'on va échanger là, mais je suis curieux vraiment des retours des auditrices et auditeurs, là, pour le coup. Bah, c'est une question posée par une nouvelle arrivée sur le Discord, quelques jours après son arrivée. C'est PatatoS qui pose cette question vaste. Quel jeu vidéo vous a fait pleurer, Julie?
Alors déjà, bienvenue à PatatoS parmi nous. J'ai très bon pseudo par ailleurs. Mais alors moi, j'ai deux exemples qui me sont venus immédiatement en tête.
Ah ouais.
Parce que c'est vrai que ça m'arrive très souvent de pleurer devant des films. Oui. Jeux vidéo, c'est un peu plus rare. Mais parce que j'ai deux exemples très différents. Il y en a un qui m'a fait pleurer en continu, où j'étais devenue une espèce de poche de larmes qui jouait vaguement avec sa manette. C'est The Wreck. C'est l'exemple le plus récent où vraiment j'étais tellement bouleversée par le jeu que je devais regarder à travers mon rideau de larmes parce que effectivement c'est un jeu qui expose une telle part de vulnérabilité de la part des personnes. Enfin, tu sens qu'il y a eu vraiment une grosse part de vie personnelle qui a été développée dans ce jeu et ça résonne immédiatement. Et c'est un jeu qui prend vraiment les pires cauchemars qu'on puisse avoir et qui te les met en pleine face. Et du coup, ouais, ça te... J'ai adoré ce jeu et on en a beaucoup parlé pendant le dernier épisode.
Et avec les pieds dans la réalité, avec les pieds dans le réel, c'est ça qui est fou, ouais. En fait. The Wreck, il a les pieds dans le réel, il te met face à des choses auxquelles t'as même pas envie de penser. Et ouais, c'est fou.
Mais c'est vrai que ouais, là, c'était vraiment pleurer en continu. Mais alors, le dernier, avant ça, je crois que... Mais ça m'avait vraiment marqué parce que c'est un personnage qu'on a eu l'occasion de voir grandir, c'est dans The Walking Dead, donc le Walking Dead de Telltale. Le tout premier Walking Dead de Telltale, ça, il est intéressant parce qu'il y a vraiment eu cette discussion entre Sean Vanaman et Jake Rodkin qui discutent de, voilà, on va devoir créer un personnage d'enfant que le joueur aura pas envie d'abandonner lâchement, enfin faut pas qu'il soit insupportable, faut qu'il soit attachant d'une manière ou d'une autre. Et ils ont accouché pour moi d'un des meilleurs persos de jeux vidéo de ces dernières années,
qui est celui de Clémentine.
Qui est extrêmement attachante et quand tu la découvres, c'est vraiment une enfant. Elle est toute innocente, avec une toute petite voix, elle est très, elle vit des moments extrêmement traumatisants. Et en fait, on a le temps de la voir évoluer au fil de la saga, et en fait, c'est dans l'ultime saison où là, c'est devenu vraiment une ado aguerrie et presque insensible par rapport au monde dans lequel elle évolue. Enfin, elle est obligée forcément d'être d'un cynisme sans nom. Et il y a un moment, en fait, où avant une grosse mission, en fait, on la voit avoir une scène de flashback avec Lee, qui est un personnage du premier épisode, et t'as juste Lee qui lui dit un truc genre... Enfin, regarde-toi comme t'es maintenant, un truc comme ça, genre look at you, un truc comme ça. Et là, mais j'ai explosé en larmes parce que je me suis dit, mais quel chemin elle a parcouru, cette Clémentine, et qu'on a vu en plus, auquel on a assisté. C'était magnifique, cette scène.
Un Lee qui n'est pas son parent, qui est une rencontre dans cet apocalypse aussi. C'est-à-dire que c'est aussi la naissance, enfin, c'est une relation qui se crée dans en enfer. C'est ça aussi qui est touchant, je trouve, dans la façon dont ils se rencontrent tous les deux, et qui fait que son fantôme, entre guillemets,
un part d'humanité qui subsiste dans un monde post-apo, et puis l'évolution de ce personnage, enfin la revoir en fait face à sa propre vulnérabilité qu'elle avait un petit peu abandonnée en façade, j'ai trouvé ça génial. Et oui, ça m'a fait pleurer à chaudes larmes.
Patrick.
Après la carte Walking Dead, c'est dur. non, allez, moi j'ai. Je vous ai dit, moi, la semaine dernière, je vous l'avais dit, hein, Jeff Minter, Lemassoft, alors pleurer, j'irai pas jusque-là, mais les yeux un peu embués, c'est-à-dire tellement touchés par le témoignage, par le côté très humain de la trajectoire de l'auteur, et c'est, comme je disais, cette foi qu'il porte en le jeu vidéo, on sent que c'est sa vie. J'ai trouvé ça touchant, ça m'a vraiment touché. J'étais devant mon écran un petit peu abasourdi, un peu, enfin, ça m'a vraiment, vraiment profondément touché. Sinon, non, ouais, je me rappelle les yeux un petit peu embués aussi de Resident Evil 7, parce que j'étais au casque vert, donc il y a aussi un peu la sueur qui s'accumule, dans les... j'avais les yeux qui piquaient, et non, parce qu'il y a un choc, et je me rappelle très bien y jouer en PlayStation VR, à ce jeu qui est quand même assez incroyable, on l'évoque dans l'émission de demain, mais c'est un électrochoc quand on le fait, et en VR, il y a une sensation absolument vertigineuse de présence. Je me rappelle encore des passages où le jeu s'amuse de cette vieille dame dans son fauteuil qui n'arrête pas de bouger de place, oui. Et dit comme ça, c'est rien. Mais quand on est au casque avec une sensation de présence absolument totale dans l'endroit, et on voit cette chose bouger, repartir, on est très mal à l'aise. Et je me rappelle avoir ce vertige avec les yeux qui piquaient dans mon casque et me dire, le jeu vidéo, moi je l'ai connu... Je commençais à jouer en 85 et je me disais, on est en... Je ne sais plus quelle année. Et je me disais, bon sang, quelle chance j'ai d'avoir vu un média comme ça autant évoluer. On est comme si on vivait le début du cinéma. Et il y a une telle... voilà, j'avais les yeux qui me piquaient un peu en traversant ce hall absolument terrifiant dans Resident Evil 7 parce que je me disais, j'y suis en VR et quel chemin parcouru depuis les premiers jeux en basique que je tapotais ou que j'achetais sur Amstrad, etc. Et puis un moment vraiment de pour moi, de déchirement, c'est la fin de Deadly Premonition 2. Un jeu imparfait, un jeu cabossé, mais un jeu qui existe et dans lequel on retrouve ces personnages qu'on adore. Il y a ce moment de, on traverse le jeu, on le finit, on combat un boss, machin... Et puis, à ce moment, on repose la manette et il y a ce générique de fin que je trouve absolument magnifique. C'est une chanson, une chanson qui s'appelle « La vie continue », qu'on peut trouver sur YouTube, que je vous recommande, qui est extrêmement touchante parce qu'on sait qu'il n'y aura peut-être pas de troisième. Il y a un moment où on repose la manette, on sait qu'on referme le chapitre d'un jeu qui était un peu inattendu, un jeu cabossé, la suite d'un jeu monumental et qui est évidemment une suite moins bonne, mais presque un petit... Un petit miracle que cette suite ait existé et qui existe surtout pour retrouver les personnages. Donc on les quitte vraiment, on se dit « Ah yeah, c'est peut-être la dernière fois, cette fois ». On pose la manette et il y a cette chanson en français qui boucle le jeu. Et je me rappelle vraiment, pas m'effondrer, mais avoir les nerfs qui se relâchent devant cette chanson en disant « C'est beau, c'est magnifique cette chanson en fin de jeu ». Et vraiment un beau moment quoi, devant mon écran, avec la manette posée, parce que c'était la fin du jeu. Et un déchirement, parce qu'on quitte ce monde un peu bizarre de Deadly Premonition, à la fois brillant et tout pété de tous les côtés, mais terriblement attachant. Et on lui dit au revoir, et on lui dit peut-être à bientôt, on espère, c'est pas sûr du tout, mais voilà, un moment un petit peu crispant.
Oui, alors c'est vrai qu'avec The Walking Dead et The Wreck, déjà sortis, on a un peu les deux gros camps candidat assez récent. Moi, j'ai un problème. C'est vrai que le jeu vidéo a du mal... Déjà, en fait, je trouve, mais ça, c'est un autre débat, le jeu vidéo a du mal à me faire rire et le jeu vidéo a du mal à me faire pleurer. D'autant plus que les trucs trop pathos... Je pense à... Il y en avait un qui était That Dragon Cancer qui était bien violent aussi, mais en fait, j'avais eu cette distance avec le truc. Je trouvais le truc infiniment triste. Évidemment, vu le sujet, mais j'avais pas été jusqu'à ressentir les trucs émotionnellement, personnellement. Moi, il y avait un jeu, alors ça remonte loin, c'est un jeu de 2006.
Avant Silence on joue.
Oui, avant Silence on joue. J'en avais parlé dans un blog, j'avais un blog sur Libération.fr à l'époque, qui est la suite de The Longest Journey, donc Funcom, hein, bon, qui sont partis ailleurs, hein, mais qui ont fait leur début sur le jeu d'aventure. Après, ils ont fait du Conan, du Dune maintenant, enfin bon, c'est autre chose Funcom maintenant. Hein. Mais il y avait The Longest Journey, qui était déjà, là, pour le coup, un pur point and click, hein, mais qui avait un univers propre à base de monde magique, monde techno, enfin voilà, de navigation entre deux mondes. Et en fait, ils avaient poursuivi ça avec Dreamfall. Dreamfall, c'était une suite dans le même univers. Et c'était, là, pour le coup, c'était un jeu... Comment le qualifier ? C'était un peu le début, un peu action-aventure. C'était encore très aventure, mais en 3D. Bon, c'est la 3D de 2006, hein, donc c'était pas non plus monstrueux. Mais on incarnait Zoé, qui naviguait dans cet univers, voilà, entre technologie d'un côté, technologie futuriste d'un côté, et puis monde magique de l'autre. Et en fait, l'histoire était vachement bien. Enfin, moi, je sais que j'avais vraiment beaucoup aimé le jeu, beaucoup aimé ce qu'il proposait et tout ça. Et il m'a pris par surprise, avec un gros truc de pathos, mais genre au tractopelle à la fin. Mais vraiment, le truc, mais le 36 tonnes. Et il m'avait... Parce que, en fait, c'est arrivé à la fin du jeu. Vraiment, c'est une des scènes de clôture, en fait. Tu as vécu des histoires avec Zoé, et puis tu as deux, trois scènes de fin qui concluent l'histoire. C'était bien fait, hein, c'était bien raconté, les histoires, l'univers narratif était vraiment très travaillé. Et t'as une scène à la fin avec une petite fille fantôme. J'ai pas sur-spoilé le truc, parce que c'est quand même bizarre de sur-spoiler un tractopelle, mais pour le coup, j'avoue que j'avais été pris au trip sans m'y attendre, parce que ça arrivait... C'était pas un jeu de pathos, justement, le jeu ne jouait pas du tout là-dessus, donc c'est un truc qui me prend par surprise à la fin, avec un personnage à qui tu t'es attaché, et je sais que, voilà. Dans mes souvenirs, ça reste un grand moment d'émotion, en fait.
En tout cas, ce qu'on voit, un fil rouge, c'est que tout ce qui a pu nous toucher, ça relève plus de la scène cinématique, ou d'exposition, ou d'explication, oui, que du gameplay. C'est-à-dire que je pense que c'est très dur d'être ému fortement... dans l'action.
Ah, j'allais dire... tu viens de me donner un contre-exemple, dont on parlera après.
Je ne l'ai pas cité parce que je l'ai cité la semaine dernière, mais la fin de Brothers,
même si
elle ne m'a pas ému aux larmes, je sais que ça m'a un peu retourné le bide. Et là, on n'est pas sur une scène cinématique,
ouais,
mais pour le coup, j'avais vraiment les tripes... ça m'a pris aux tripes, quoi.
Ouais, j'ai eu ça avec un élément de gameplay dans A Plague Tale Requiem, en fait. C'est une action demandé de faire, qui te vient pas naturellement, qui est contre-intuitive en tant que joueur, et qui m'a, bon alors je dis pas que j'étais en larmes, mais qui m'a un peu flingué, j'étais là, oh, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Et sur la fin, j'imagine que vous voyez à quoi je fais référence, mais bref, je trouvais ça vraiment malin, de jouer sur ce qui est attendu de toi en tant que joueur, et ce que ton personnage...
Mais si, je repense à un truc. Et encore une contradiction pour toi, Patrick. Je repense à un truc. Je reviens sur The Walking Dead. Walking Dead, un passage qui m'a flingué, mais flingué. Et c'est anecdotique presque. C'est dans la première saison. C'est un moment. Tu dois enterrer le cadavre d'un enfant zombie.
Ah, puis tu le fais, oui.
Et tu appuies sur le bouton à chaque coup de pelle pour reboucher le trou. Et franchement, j'étais à terre.
Ouais.
Le poids du mimétisme.
Ouais, il y avait un truc comme ça. Ce passage, il devait y avoir une musique. C'était peut-être un peu évidemment sur pathos,
alors,
etc.
Là, dans une action, mais qui reste quand même. Alors, c'est pas du QTE, je sais pas, mais.
Un peu, mais c'est. Non, parce que tu
On est encore sur des. Oui, on est sur des actions très délimitées à un moment donné.
Oui,
c'est vrai que l'action pure de jeu vidéo, de gameplay, de système de gameplay, le rendrait émouvant, je pense que c'est difficile.
Et là, en fait, ce qui m'avait, en fait, je crois me souvenir, ce qui m'avait vachement, vachement touché, c'est que, en fait, c'était l'inverse du QTE, c'est-à-dire tu avais cette touche A qui restait, mais tu n'avais pas de temps. Et du coup, il y avait un truc comme ça où tu faisais un avec le personnage, avec ses émotions, et il y avait un truc que je trouvais vachement intéressant là-dedans, qui était une scène, ouais, voilà. Bon, bref, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire.
J'ai trop hâte de voir les réponses des gens.
Ouais. Et vous, chères auditrices, chers auditeurs, quel jeu vidéo vous a fait pleurer ? On attend avec beaucoup de curiosité vos réponses dans le Discord de Silence On Joue ou sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et nous, on se retrouve demain pour l'épisode de la semaine de Silence On Joue. Ciao.
Ciao.
Salut.